Bienvenue dans Art Interview sur Art District, l'émission qui donne la parole aux acteurs du monde culturel, qui met en lumière des initiatives liées au monde de l'art et de la culture. Alors que la belle exposition Kimono au bonheur des dames vient d'ouvrir ses portes au musée Guimet, je vous propose de prolonger l'expérience du Japon en découvrant l'œuvre de Yasunari Kawabata, prix Nobel de littérature en 1968. Écoutons dans cette émission les comédiens Nicolas Briançon et Anne-Sophie Nalino nous lire des extraits des Belles Endormies de Kawabata. Puis Emmanuel Lozeran, traducteur, professeur et co-directeur de la collection Japon aux Belles Lettres, nous parle lui de littérature japonaise avec passion.
Les Belles Endormies de Yasunari Kawabata. Et veuillez éviter, je vous en prie, les taquineries de mauvais goût. N'essayez pas de mettre les doigts dans la bouche de la petite qui dort. Ça ne serait pas convenable, recommanda l'hôtesse au vieil Iguchi. Au premier étage, il n'y avait que deux pièces. Celle de Huinat, où s'entretenaient Iguchi et la femme, et celle d'à côté, une chambre à coucher, probablement. Quant à les trois rez-de-chaussée qu'il avait vus en passant, ils ne semblaient pas comporter de salon, de sorte que la maison ne méritait pas le nom d'hôtel. Nulle enseigne n'indiquait du reste que ce fût une auberge. D'ailleurs, le mystère de cette maison interdisait sans doute pareille publicité. L'on n'y entendait pas le moindre bruit. Hormis la femme qui avait accueilli le vieil homme au portail verrouillé et avec qui il conversait en ce moment même, il n'avait aperçu âme qui vive. Mais Iguchi, dont c'était la première visite, n'avait pu démêler si elle était la patronne ou une employée. Quoi qu'il en fût, mieux valait sans doute que le visiteur s'abstint de poser des questions superflues. Ne cherchez pas à réveiller la petite, car quoi que vous fassiez pour essayer de la réveiller, jamais elle n'ouvrira les yeux. Elle est profondément endormie et ne se rend compte de rien. Car la fille dort tout d'une traite, et du début à la fin, elle ignore tout. Même avec qui elle aura passé la nuit. N'ayez donc aucune inquiétude. Voici la clé. Reposez-vous à votre aise. Si par hasard vous n'arriviez pas à vous endormir, vous trouverez un somnifère à votre chevet.
N'auriez-vous pas quelques liqueurs?
Non, nous ne servons pas d'alcool.
Pas même un peu de saké pour dormir?
Non.
La jeune personne se trouve dans la chambre voisine, n'est-ce pas?
Elle est déjà endormie et elle vous attend.
Ah bon? Iguchi eut un léger sursaut. Cette fille, quand donc était-elle entrée dans la pièce voisine? Depuis quand dormait-elle donc? Si la femme avait entrouvert la porte et jeté un coup d'œil, sans doute était-ce pour s'assurer du sommeil de la fille. Que celle-ci l'attendrait plongée dans le sommeil et ne se réveillerait pas, il l'avait su par un vieil ami qui connaissait la maison. Mais maintenant qu'il s'y trouvait, la chose lui paraissait incroyable. Resté seul, le vieil Iguchi parcourut des yeux la pièce de Huinat, innocente et sans mystère, puis son regard s'arrêta sur la porte de la chambre voisine. C'était une porte en bois de cryptomère, large d'une demi-toise. Elle ne datait pas de l'époque où cette maison avait été construite, mais semblait avoir été rajoutée par la suite.
Bonjour Emmanuel Lozeran, nous sommes au musée Guimet, on vient d'assister à une lecture d'un livre japonais d'un auteur qui s'appelle Kawabata, dont le titre est « Les Belles Endormies ». Et ensuite, vous êtes venu à la rencontre du public pour parler de littérature japonaise. Donc, vous êtes en effet co-directeur de la collection Japon aux éditions des Belles Lettres, également professeur de langue et de littérature japonaise à l'INALCO et traducteur. Vous venez d'ailleurs de traduire un livre japonais, vous nous en parlerez tout à l'heure. Alors l'idée aujourd'hui, c'est de faire plonger un peu les auditeurs dans la littérature japonaise. Dites-nous par exemple, quels sont les grands auteurs? Vous nous avez parlé des grands auteurs japonais et notamment une triade infernale, vous avez dit tout à l'heure, les grands auteurs japonais donc qui se sont fait connaître après-guerre.
Oui, alors bon, l'histoire de la littérature japonaise, elle est longue, hein. Elle démarre au 8e siècle, donc il y aurait d'un côté la littérature classique, où les noms les plus célèbres, c'est le dit du Genji, ou bien il y a les haïkus de Basho, mais peut-être votre question porte plus sur ce qu'est la littérature moderne ou contemporaine, et donc là, effectivement, longtemps en France, on s'est surtout concentré sur les trois grands romanciers découverts dans les années 60, donc Mishima Yukio, Kawabata Yasunari, qui a eu le prix Nobel en 1968, et puis Tanizaki Junichiro, qui est le seul écrivain japonais qui est dans la Pléiade. Puis après, il y en a un autre qui est très connu aussi, qui est Oe Kenzaburo, qui est le deuxième japonais à avoir eu un prix Nobel en 1994. Donc ça, c'est les noms les plus connus, mais évidemment, la collection Japon aux belles lettres a pour but de faire connaître d'autres auteurs. La littérature japonaise est très très riche. Par exemple, il y a un auteur qui a un petit peu commencé à avoir un public en France, c'est Natsume Soseki, l'auteur de « Je suis un chat », qui est un auteur très intéressant parce qu'il a été traduit chez plusieurs éditeurs, par plusieurs traducteurs, et puis petit à petit, il s'est fait un public, je pense. Un autre très connu, c'est évidemment Murakami Haruki. Il n'y a pas besoin de publicité, il est dans toutes les librairies de gare. Donc vraiment, je pourrais vous citer des noms à l'infini.
Alors, si on revient justement sur le texte d'aujourd'hui, Les Belles Endormies de Kawabata, vous avez assisté à la lecture par deux comédiens ici. Qu'est-ce qui vous frappe? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce texte?
Alors ça m'a beaucoup plu de les entendre parce que c'est un texte que j'avais lu il y a, je pense, 30 ou 40 ans quand j'étais étudiant en japonais. Je ne l'avais pas réouvert depuis. Donc ce qui m'a frappé, c'est vraiment cette... Alors il y a une situation scabreuse, hein, puisque, pour dire rapidement, le thème du livre, c'est des vieillards qui payent pour avoir le droit de passer la nuit à côté d'une jeune fille qu'on a droguée, donc dans des maisons de prostitution. Ils n'ont officiellement pas le droit de toucher les jeunes filles, mais juste le plaisir de passer la nuit dans une forme d'étrange intimité avec elles. Donc il y a quelque chose qui est très scabreux et pas nécessairement attirant pour moi, mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que cette espèce de dispositif narratif étrange permet en fait au héros, qui s'appelle Eguchi dans le roman, de se remémorer en fait tout un tas de situations, donc de manière désordonnée, parce que ça vient au fil un peu de sa rêverie en présence de ces jeunes filles, et bien différents moments de son histoire personnelle et des rapports qu'il a eu avec différentes femmes.
Le vieil Eguchi, au cours des 67 années de sa vie, avait connu bien entendu des nuits déplaisantes avec des femmes. Et c'était des déconvenues de ce genre que, précisément, il n'avait pu oublier. Or, ces déconvenues n'étaient point dues à quelque disgrâce physique, mais provenaient d'une déviation malheureuse dans la vie de ces femmes. Eguchi n'éprouvait nulle envie, à l'âge qu'il avait, de faire l'expérience d'une nouvelle déconvenue avec une femme. Il était venu dans cette maison, et voilà quelles étaient ses pensées à l'instant critique. Et pourtant, pouvait-il exister chose plus horrible qu'un vieillard qui se disposait à coucher une nuit entière aux côtés d'une fille que l'on avait endormie pour tout ce temps et qui n'ouvrirait pas l'œil? Eguchi n'était-il pas venu dans cette maison pour rechercher cet absolu dans l'horreur de la vieillesse? Des clients de tout repos, avait dit la femme. Et il était vraisemblable, en effet, que ceux qui venaient dans cette maison étaient tous des clients de tout repos.
Vous avez d'ailleurs insisté sur la beauté des pages, sur les souvenirs, et vous avez fait un rapport avec Marcel Proust là-dessus.
Oui, c'est parce que ce qui m'avait frappé, c'était la manière dont les souvenirs s'enchevêtrent et s'entremêlent. Et donc, au début de la recherche du temps perdu, vous savez, c'est pas un demi-endormissement, c'est un demi-réveil. Et quand on se réveille, qu'on ne sait pas nécessairement dans quelle chambre on est, on a un petit doute, on se demande si c'est la maison de vacances, la maison où on habitait avant. Et donc, y a une espèce de tourbillon, hein, de danse imaginaire. Et en écoutant les comédiens lire ça, j'avais l'impression que c'était le même processus, la manière dont les souvenirs se bousculent. Donc là, c'est pas des chambres, mais c'est différentes femmes. Et donc, on voit très bien ce jeu de la mémoire et de l'imagination à partir de petits détails. Et donc là, parfois, ben, sur ces jeunes filles endormies, il y a, un détail corporel, une dent, une odeur, un geste. Et donc c'est comment un tout petit détail, anodin en lui-même, est une sorte de déclencheur après du souvenir ou bien de l'imagination.
Il regarda la fille endormie. Ce n'était pas un sommeil fin, car il pouvait entendre sa respiration, qui indiquait sans conteste qu'elle dormait profondément. Devant la beauté imprévue de la fille, le vieil homme eut le souffle coupé. Sa beauté n'était pas la seule chose imprévue. Sa jeunesse l'était tout autant. Elle lui faisait face, étendue sur le côté gauche, le visage seul découvert. Son corps était invisible, mais sans doute n'avait-elle pas 20 ans encore. Dans la poitrine des Gucci, ce fut comme si un cœur nouveau déployait ses ailes. Le poignet droit de la fille dépassait et le bras gauche paraissait étendu en oblique sous la couverture. Mais la main droite reposait sur la tête, le long du visage aux yeux clos, le pouce seul à demi caché sous la joue. Le bout des doigts amolli par le sommeil, légèrement recourbé vers le dedans, mais pas replié cependant au point que l'on ne pût deviner le pli délicat des jointures. La coloration rose d'un sang chaud allait s'intensifiant du dos de la main à la pointe des doigts. C'était une main blanche, d'apparence lisse. Tu dors? Tu ne te réveilles pas? Le vieil Iguchi avait dit cela comme pour se donner le prétexte de toucher cette main, puis il la serra tout entière dans sa paume et essaya de la secouer légèrement. Il se déshabilla.
Iguchi, craignant que la fille, malgré tout, ne se réveillât, se glissa doucement dans la couche. Il lui parut qu'elle n'avait rien sur le corps. De plus, aucun signe, que ce fût une contraction de la poitrine, un tressaillement des hanches, montra qu'elle eût senti le vieillard se glisser à ses côtés. Quelque profond que fût son sommeil, il semblait qu'une jeune femme aurait dû réagir par réflexe, mais ce n'était pas là, après tout, un sommeil normal, se dit Eguchi, qui se raidit comme pour éviter tout contact avec la fille.
Et il faut préciser en plus que Proust était, donc à son époque, c'était la vogue du japonisme, et était aussi très, aimait beaucoup le Japon, enfin il s'intéressait en tout cas au Japon.
Alors Proust est quelqu'un qui, je crois, sauf erreur, est né en 1867, je pense, ou en tout cas dans les années 1860. Et donc sa génération est la génération qui a découvert le japonisme en direct à Paris, puisque c'est le moment où il y avait les grandes expositions universelles et il y a eu la vogue des estampes. Donc comme, je ne sais pas moi, Baudelaire, les frères Goncourt, tous les peintres, Van Gogh, les autres, Monet. Donc Proust fait partie de cette génération et a aimé les choses du Japon et est allé chez ses marchands et a acheté des objets et donc a aimé et s'en est inspiré. Il y a des descriptions. Par exemple, on sait les descriptions de Proust qui sont inspirées de certains tableaux de Monet, et donc il y a tout ce mélange justement de, je crois que c'est le peintre Elstir qui est plus ou moins inspiré par Monet. Donc il y a beaucoup d'éléments de l'esthétique de Proust qui en fait ont un écho, on va dire, avec des choses japonaises comme chez les peintres. Donc Proust est un auteur japoniste. Et puis donc je racontais au public l'image même du déploiement de la mémoire au cœur de la recherche du temps perdu, c'est pas la Madeleine. La Madeleine c'est juste le point de départ. Après le mouvement c'est celui d'une fleur qui se déploie dans l'eau, comme dans ce jeu japonais dit Proust, où des petits cubes de papier pliés artistiquement, quand on les met dans l'eau, se déploient. Alors dans le jeu japonais font des fleurs, et chez Proust le déploiement c'est celui du monde de son enfance, de la Vivonne, de Combray. Et la métaphore est celle d'un jeu japonais.
Et donc Proust avait pensé à un titre...
Voilà, qui était donc Jardin dans une tasse de thé.
Voilà.
Comment, de manière étrange...
Donc avant de l'appeler La recherche du temps perdu.
Tout à fait, il y a une liste de titres, et Jardin dans une tasse de thé a été une des hypothèses.
Couchée sur le côté gauche, elle n'était pas en position de défense. Le genou droit reposant sur le gauche et le dépassant... Mais le genou droit en arrière, et la jambe droite apparemment tendue. Il s'en rendait compte sans le voir. Les épaules et le bassin se présentaient sous des angles différents en raison de la torsion du buste. La fille ne paraissait pas très grande. Le sommeil la tenait engourdie jusqu'au bout des doigts de la main qu'Eguchi tout à l'heure avait serrée et secouée, et qui, retombée, gardait la position prise lorsqu'il l'avait lâchée. Quand le vieillard tira à lui son propre appui-tête, la main de la fille retomba. Eguchi, le coude sur l'appui-tête, contempla la main. « On dirait vraiment qu'elle est vivante, » murmura-t-il. Qu'elle fût vivante, il n'en avait jamais douté. Il avait murmuré cela qui signifiait qu'il la trouvait charmante, mais à peine proférées, ses paroles avaient pris une résonance inquiétante. La fille, endormie sans qu'elle se doutât de rien, avait perdu conscience, mais encore que le cours de son temps vital n'en fût point suspendu, n'en était-elle pas moins plongée dans un abîme sans fond? Cela ne faisait pas d'elle une poupée vivante, car il n'existe point de poupée vivante. Mais on en avait fait un jouet vivant, afin d'épargner tout sentiment de honte à des vieillards qui déjà n'étaient plus des hommes. Mieux encore qu'un jouet, pour des vieillards de cette sorte, elle était, qui sait, la vie en soi. Une vie qui pouvait être ainsi touchée en toute sécurité. Pour les yeux presbytes des Gucci, la main toute proche de la fille semblait plus douce encore et plus belle. Elle était lisse au toucher, mais la finesse de sa texture échappait à la vue. La coloration rose, due à un sang chaud, plus foncé en allant vers la pointe des doigts, apparaissait avec la même nuance dans le lobe de l'oreille. L'oreille se montrait entre les cheveux. Le rose du lobe de l'oreille accusait la fraîcheur de la fille au point que le vieillard en eut le cœur étreint. Et Gucci avait pour la première fois échoué dans cette maison mystérieuse, poussée par son goût de l'insolite. Mais il en venait à se demander si des vieillards plus décrépits que lui ne retiraient pas de la fréquentation de cette maison des joies et des peines bien plus puissantes.
Alors, vous avez beaucoup parlé des souvenirs. Un autre thème, c'était d'ailleurs le thème principal que vous avez abordé lors de cette conférence, c'est la représentation du corps, et notamment du corps de la femme, dans plusieurs textes japonais. Vous avez donc évoqué aussi le cliché un peu qu'on a, nous, occidentaux, de penser peut-être cette obsession qu'ont les Japonais pour le corps, et puis avec cet aspect d'érotisme, mais aussi tourner un peu vers le sadisme. Voilà, alors vous avez évoqué évidemment ces sujets en nous disant que le Japon, ce n'est pas que ça, bien sûr, mais il y a effectivement une grande présence du corps dans plusieurs textes japonais. Mmh. C'est un thème important.
Donc, comme je dis de manière un petit peu simpliste, les Japonais appartiennent à la même humanité que nous, donc ils font face à la même condition humaine que nous, donc où l'érotisme, la violence, la mort ont aussi leur place, comme d'autres choses. Mais alors après, ce qui est vrai, c'est que dans l'imaginaire japonais, il y a des courants qui associent, d'abord il y a un fort développement de l'imaginaire, le Japon est une société qui n'a pas condamné l'imaginaire, donc la richesse des arts, de la littérature japonaise est liée à des grands développements imaginaires, et dans cet imaginaire, un fil, pas tous les fils, un fil effectivement consiste à tresser l'érotisme et la mort, mais c'est pas par ailleurs spécifique au Japon non plus, vous allez le retrouver dans d'autres sociétés.
Les geishas, enfin la présence des geishas qui a contribué, disons, alors, à construire ce...
Pour les Occidentaux.
Oui, pour les Occidentaux.
Alors, si vous me permettez, je distingue deux choses. D'abord, pour les Occidentaux, ça c'est une petite théorie que j'ai, qui est que la vision des Japonais par les Occidentaux, en fait, c'est un calque de celle que les Occidentaux avaient des Ottomans, des Turcs. Parce que l'altérité pour les Occidentaux, longtemps, ça a été l'Empire Ottoman. Hein. Et cet Empire Ottoman, il était à la fois très dangereux, mais aussi très puissant et très respectable. Parce que c'était en fait un adversaire d'égal à égal. Et on n'écrabouillait pas l'Empire ottoman. Il était aux portes de Vienne et le sultan de l'autre côté, c'était important. Et donc les Occidentaux avaient du mal à penser ce qui aurait été leur grande résistance à l'Est pendant longtemps. Et donc c'est là où ils ne pouvaient pas le mépriser d'un trait de plume, dire c'est des animaux, c'est... Alors c'est là où ils ont développé cette idée un peu tordue qui est que c'est une situation remarquable, mais... un petit peu fausse en même temps, un petit peu superficielle. L'idée que c'est joli en façade, mais que si on gratte... c'est dangereux. Et donc c'est tous ces thèmes sur le côté sophistiqué mais superficiel de certaines civilisations qui en fait cachent des trésors de barbarie. Les occidentaux étant véhément de la plus parfaite mauvaise foi par rapport à leur propre violence. Et puis en même temps il y avait une attirance de cette altérité. Donc on a beaucoup fantasmé d'abord sur le harem, et donc les bayadères, les danseuses, les femmes des harems, mais aussi sur la cruauté des soldats, des janissaires, les soldats du sultan. Or, quand le monde après s'est élargi au XIXe siècle, qu'on a mieux connu la Chine ou le Japon, je pense qu'on a largement transposé ces fantasmes d'érotisme et de violence forgés à propos des Turcs, des Ottomans, en les reportant sur le Japon. Et donc c'est là où la geisha et le samouraï sont devenus le modèle érotique et le modèle violent qui permettait de dire ces gens-là sont fascinants mais aussi inquiétants. Donc je pense qu'on est dans ce jeu-là. Ça, c'est une chose, mais l'autre chose importante, c'est à propos de cet imaginaire japonais, je pense qu'il vient quand même beaucoup du bouddhisme, où dans le bouddhisme, il y a une espèce quand même d'inquiétude face au désir humain, et du coup une attitude assez ambivalente par rapport à la femme et au corps de la femme, qui est à la fois présentée comme très tentateur, mais aussi dont on essaye de se débarrasser, et qui est aussi donc présentée comme dangereux. Donc une espèce d'ambivalence de séduction érotique mais de risque morbide ou mortifère, c'est un aspect d'un des courants du bouddhisme et donc qui est présent au Japon et qu'on va retrouver effectivement dans des peintures, dans des récits, une espèce d'alliage étrange entre la femme et la mort, de nouveau pas propre au Japon mais...
Oui, oui. Mais disons
mais développé, ça existe au Japon.
D'où des descriptions littéraires sur...
Et donc on le retrouve chez des auteurs comme Kawabata, Tanizaki, Mishima, où il y a cette alliance-là, qui a beaucoup plus occidentaux dans les années 60-70, et qui certains ont dit, Japon c'est ça. C'est sexe plus violence.
Ça a cristallisé un peu.
Et donc moi en tout cas, et peut-être d'autres de ma génération, on essaye de présenter un Japon différent de ça,
oui,
sans nier que ça existe.
Ouais.
Plus humain peut-être, plus proche, moins spectaculaire d'un côté, mais peut-être plus réel et avec lequel on a peut-être plus de choses à partager.
Plus réel, et vous disiez aussi, par certains aspects, un Japon un peu rablaisien, parce que voilà, les Japonais sont des bons vivants également.
Oui, alors on le sait parce qu'ils aiment manger, mais ils aiment chanter aussi, ils aiment rire, c'est des banalités, mais qui ne sont pas toujours mis en évidence dans les films ou la littérature japonaise qu'on présente ou qu'on aime en France. Sauf exception, je ne sais pas si vous avez vu le film, ça s'appelle Tampopo. Un film d'un cinéaste qui s'appelle Itami Juzo. Tampopo, c'est une espèce d'épopée à la quête des meilleurs ramen. Vous savez, les ramen, c'est des nouilles chinoises qu'on fait au Japon. Et donc, c'est donc très populaire, ça coûte pas cher, c'est dans des petites boutiques. Et la base, c'est un bouillon de viande, donc comme les pho dans les restaurants chinois à Paris. Et donc, le secret du bon ramen, c'est un bouillon bien fabriqué. Donc dans lequel on a mis à mijoter longuement tout un tas d'ingrédients. Donc c'est un film qui est une espèce d'épopée, mi-gastronomique, mi-burlesque, de recherche des meilleurs ramen. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet noble et chic, vous voyez, ou élégant. C'est ni violent, ni sexuel, c'est gastronomique.
Alors c'est cet aspect aussi un peu prosaïque et quotidien et sympathique que vous avez aimé dans le livre que vous avez traduit. Pouvez-vous nous en dire un petit mot avant qu'on se quitte ?
Oui, alors donc le livre que j'ai traduit s'appelle, c'est un titre très tragique, Un lit de malade 6 pieds de long, parce que ça a été écrit par un homme, Masao Kashiki, qui souffrait de tuberculose osseuse et qui était donc condamné au handicap et à la souffrance. Mais ce livre n'est pas une histoire triste et bouleversante d'un homme qui souffrirait. C'est un homme qui souffre, qui est handicapé et qui va bientôt mourir, mais qui aime la vie. Et qui aime donc ses amis, qui aime la manger, qui aime la peinture, qui aime la musique, et qui donc, dans le livre que j'ai traduit, ça correspond à une chronique quotidienne qu'il a donnée à un journal japonais entre mai et septembre 1902, où chaque jour, il envoie quelques lignes sur des sujets variés, et donc en fonction de son humeur. Donc en fait, le suivre cet homme dans les 5 derniers mois de sa vie, c'est être au rythme de ses variations d'humeur. Alors parfois il souffre et il a mal, mais la plupart du temps il s'émerveille de la beauté du monde, d'une fleur qu'on lui a offerte, d'un livre qu'il découvre, d'un tableau qu'un de ses amis lui apporte, de blagues qu'il fait avec ses amis, et puis la maladie l'amène aussi à mieux comprendre le monde dans lequel il vit. J'expliquais par exemple que, alors, c'est un fils de guerrier, Masaokashi, qui est les fils de guerriers.
Il faut préciser que c'est un auteur du 19e siècle.
Oui, c'est quelqu'un qui est né en 1867, mais un contemporain de Proust, voilà, par ailleurs. Il est né dans un monde où il y avait une forte séparation entre les hommes et les femmes, donc il ne s'intéressait pas du tout aux tâches domestiques. Mais comme il est malade et cloué dans son lit chez lui, et qu'il a besoin des soins que sa mère et sa sœur lui apportent, son regard sur sa mère et sa sœur change, il comprend le poids de la quotidienneté qui pèse sur elle. Et du coup, il va se mettre à avoir des idées qui peuvent assez saugrenues, comme par exemple l'idée d'organiser une coopérative de quartier qui permettrait qu'on cuise le riz pour tout un quartier, et que chaque famille n'ait pas à cuire son propre riz, qui prend énormément de temps. Et alors, il a un esprit très libre, parce qu'il invente des objections. Il dit, oui, il y a des gens qui aiment le riz plus cuit, d'autres qui aiment le riz moins cuit. Ben, il dit, c'est pas grave, à la coopérative de quartier, on fera plusieurs sortes de riz, du riz plus ou moins cuit, et chacun choisira le riz qu'il aime. Donc c'est quelqu'un qui a une espèce de liberté de ton et de prosaïsme, mais pas un prosaïsme réducteur, vous voyez. C'est quelqu'un qui peut être bouleversé par la peinture à l'aquarelle du camélia qu'il y a dans son jardin. C'est quelqu'un qui peut enquêter sur la manière dont, je vous dis ça au hasard comme ça me vient, dont dans les différentes parties du Japon on retranscrit le cri de la chouette. Mm-hmm. Donc il va lancer une enquête dans le journal en disant, dites-moi si chez vous la chouette fait kui-kui you-you ou bien you-you kui-kui. Donc vous voyez, il y a un formidable amour de la diversité du monde, et moi c'est ce qui m'a touché chez cet auteur, et c'est pour ça que j'ai consacré du
auteur,
temps à le...
Un auteur touchant à découvrir, qui s'émerveille aussi de la
tout
vie.
À fait.
Tout simplement,
mais qui n'est pas nié, hein,
du temps présent.
Qui rit, qui se moque, qui polémique, qui...
Oui, merci beaucoup,
Emmanuel
Ozran, de nous avoir fait un petit parcours rapide de la littérature japonaise et de nous avoir fait découvrir cet auteur. Donc voilà,
merci.
Le cou et l'épaule étaient d'une adolescente. Il n'avait pas la ronde plénitude de la femme. Le vieillard détourna les yeux et parcourut la chambre du regard. Les vêtements qu'il venait de quitter étaient dans la corbeille, mais nulle part il n'apercevait ceux de la fille. Sans doute la femme les avait-elle emportés, à moins de supposer que la fille fût entrée dans cette chambre totalement dévêtue. À cette idée, Eguchi se sentit gêné. Il lui était loisible de la contempler tout entière. Il n'avait plus désormais à se sentir gêné, et il comprenait bien que c'était précisément dans ce but qu'elle avait été endormie. Mais Eguchi n'en tira pas moins la couverture sur son épaule découverte. Puis il ferma les yeux.
C'était Art Interview sur Art District. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, en vous souhaitant une bonne suite de nos programmes sur Art District.